Philippe Lay, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes prêtre passionniste, que vous êtes recteur du sanctuaire marial Notre-Dame du Croc dans l'Aude, que vous êtes ermite et accompagnateur spirituel et que vous venez d'écrire Saint Jean, le livre des sept secrets aux éditions Anne-Sigier. Et c'est à ce propos de ce livre que nous nous rencontrons pour la deuxième fois. Nous avions expliqué largement qu'il était de Jean, que c'était une lecture spirituelle, un cheminement que vous proposiez aux personnes que vous accompagnez, mais à tout lecteur de Jean.
À tout lecteur de Jean, tout à fait. C'est à la fois un itinéraire que Jean nous propose afin de nous d'éclairer le cheminement de la foi et de l'adapter bien sûr à chacun. Mais c'est en même temps la structure autour de laquelle Saint Jean a construit tout le récit de la vie publique du Seigneur, c'est-à-dire tout le message de l'Évangile. Donc c'est vraiment une structure théologique qui se donne à contempler.
Alors nous allons voir pendant ces 10 minutes cet accompagnement, cette progression, cette mutation, on pourrait dire, ou du cheminement des sept secrets de Saint Jean.
Voilà, une illumination progressive de l'âme.
Alors cette illumination, elle commence à Cana.
Elle commence à Cana. À Cana, on connaît tous ce miracle. Il a la tonalité de la joie, Cana. Et un vin nouveau, un vin de meilleure qualité que le premier, qui vient rehausser la célébration de l'amour humain, la célébration des noces. Ça intervient au minos, à la moitié, quoi, de cette célébration de l'amour humain, comme si quelque chose s'essoufflait dans la vie humaine en général, cette fois-ci, parce qu'il faut l'étendre à tout l'être humain. Donc, comme si l'amour humain avait besoin, eh bien, que Dieu intervienne pour lui donner vraiment une intensité supérieure. Mais à Cana, les gens ne savent pas encore que c'est Jésus qui a accompli le miracle, seuls quelques témoins, le texte précise, des servants. Donc, Dieu vient gratuitement, à l'insu des hommes, au milieu d'eux, au milieu de nous, comme il le fait à toutes les époques.
Avec l'intercession de Marie.
Par l'intercession de la Vierge Marie, justement.
Faites tout ce qu'il vous dira.
Oui. Marie, c'est la spiritualité de Nazareth. C'est justement la spiritualité de la Sainte Famille, où Dieu habite en paix avec les hommes, attendant le moment de se manifester. Nazareth, Cana n'en est que le prolongement. Et justement, avec Cana, on a une fenêtre qui s'ouvre sur Nazareth. C'est la même spiritualité, mais on a trop tendance à croire que tout s'arrête là. Or, ce que Saint Jean nous explique, Nazareth, la spiritualité de Nazareth, peut être le point de départ magnifique d'un itinéraire vers Dieu.
Alors, deuxième étape, c'est la guérison du fils de l'officier royal. Vous en aviez déjà un petit peu parlé dans la première émission, mais néanmoins, c'est la conversion, la demande à celui qui commandait, où on demande d'obéir.
Dans le cadre où Jean situe les sept miracles, donc dans le cadre d'un itinéraire spirituel, c'est la seconde étape. Cette seconde étape, c'est la maturité, c'est une maturation, pas encore la maturité, mais une maturation, une mise en pratique de cet appel reçu à Cana. À Cana, c'est l'appel de Jean-Baptiste aussi, qui appelle les premiers disciples et qui montre l'agneau de Dieu. Dans ce second signe, eh bien, c'est pour le croyant la nécessité de commencer à mettre en place la foi. Et c'est plus seulement l'appel, la belle lumière qu'on voit briller d'un seul coup dans sa vie. Quelque chose, les impasses, les obscurités, une voie s'ouvre au milieu de tout cela. C'est Dieu qui nous permet d'envisager avec bonheur l'existence. Mais Dieu nous demande de marcher, alors on doit commencer à mettre en pratique, à mettre les commandements dans sa vie. Et Dieu explique, mais c'est moi qui donne la voie, ce n'est pas toi qui dois passer devant moi. Tu dois regarder ces commandements et essayer de les mettre en pratique d'une façon plus précise dans ton existence.
Et mettre en pratique, c'est aussi la guérison du paralysé. Le paralysé, il ne bouge pas et
voilà.
Il va lui-même prendre son... Grave.
Dans la Bible, qui est très symbolique, elle aussi dans son ensemble, les jambes, ça représente vraiment la volonté symboliquement. C'est très simple comme symbole et très parlant. Et c'est là la vraie guérison de la volonté. Et Jésus permet à l'âme, à l'homme en général, qui chemine dans la foi, eh bien à cette étape-là de pouvoir se mettre à marcher.
De se mettre debout.
De se mettre debout enfin. Pourquoi ? Parce que c'est alors là, il faut entrer dans une méditation plus profonde de ce troisième signe, du récit de cette guérison. C'est, il est là depuis 38 ans, depuis très longtemps, et ce chiffre 38, eh bien Jean, là encore, il est symbolique, et Jean nous demande de le lire, et il nous dit, en conclusion, moi je ne peux pas tout vous expliquer, mais en conclusion, bah, c'est la peur du monde, c'est laisser sa foi de côté par intimidation, parce que on a honte, parce qu'on pense que les arguments de la foi ne peuvent pas contrebalancer la science, etc. Il y a eu un petit vertige là, et puis après ce débat qui peut durer longtemps, mais pas forcément 38 ans d'ailleurs, c'est symbolique.
Et qui est une paralysie.
Mais qui est une paralysie. On n'arrive pas à affirmer la foi, on n'arrive pas à regarder la foi encore au sérieux comme ayant le pouvoir de transformer le monde.
Alors vous entrez après dans le deuxième cycle, enfin Jean, selon vous, entre dans le deuxième cycle, qui est le cycle du disciple. Là, il y a un saut.
Voilà, on monte d'un étage. Le croyant, ça c'est pour le salut, c'est la seule chose qui compte, c'est la seule chose qui soit nécessaire. Mais Dieu, dans sa surabondance, lui, veut être aimé par les hommes qu'il a créés. Et il demande aussi, il propose à tous les croyants de devenir des disciples. Et on voit qu'il y a une différence de niveau, mais en même temps, c'est un parcours parallèle qui va s'accomplir, mais à un cran au-dessus.
Et c'est un deuxième festin.
Et voilà, c'est la multiplication des pains qui symboliquement est une contemplation du mystère de la vie. On entre plus profondément, veux-je dire, dans le sens de l'existence, dans le sens des êtres, dans leur vocation propre aussi. Le mystère de la vie, c'est ce déploiement de Dieu à travers l'homme et son histoire.
Et on c'est a un vu don une qui est préfiguration fait. Du repas eucharistique aussi.
Bien sûr, mais Cana aussi l'était. Donc c'est la seconde espèce eucharistique là à laquelle se réfère Jean.
Et on passe au cinquième signe.
Voilà, bah lui aussi. Il est la mise en place de quelque chose qui a été reçu lors de la multiplication des pains. Et cette mise en place, eh bien, c'est vraiment pour devenir un disciple. Il faut être capable, en fait, de marcher sur les eaux de ce monde, au-dessus des eaux de ce monde, pas avec mépris, mais avec cette élévation qui permet d'avoir la force, eh bien, de comprendre les signes des temps, comme disaient les pères de Vatican II, comprendre les signes des temps, et donc avoir cet esprit prophétique qui permet de proclamer la parole de Dieu.
D'autant plus que la mer, enfin c'est un lac, mais la mer est toujours associée quand même à des pouvoirs maléfiques.
Traditionnellement, dans le judaïsme, la mer, c'est en bas, c'est les abîmes, c'est l'obscurité, c'est le séjour des démons. Et puis les flots, vous voyez, c'est l'inconstance du monde. Notre monde souffre, lorsqu'il n'est pas finalisé par la vérité, il souffre de questions qui sans cesse rebondissent, de problèmes, de polémiques. On s'est rempli, vous voyez, les actualités, les médias sont remplis de ça. On rebondit sans cesse sans trouver finalement de cheminement. C'est toujours les mêmes conflits qui déchirent le monde. Ça, c'est ce que les flots, dans leur mouvement, évoquent en général. Marcher au-dessus de ça, c'est discerner une vérité au-delà de ces accidents, au-delà de ces conflits, de ces questions qui sans cesse remplissent notre actualité quotidienne.
Prendre de la hauteur.
Prendre de la hauteur. Mais il n'y a que l'Esprit Saint qui puisse nous permettre de le faire.
Et nous acheminons, Père Play, vers le sixième signe, le dernier de ce cycle du disciple. Et là, c'est encore une guérison parallèle à celle de la première étape, mais
là, cette fois-ci, c'est plus la volonté, parce que la volonté de l'homme à cette étape de l'itinéraire spirituel est acquise au Seigneur. Cette fois-ci, c'est vraiment ce que le signe précédent, cette élévation nécessaire au-dessus des eaux du monde, mais qui se faisait encore de nuit. Vous voyez, il est nécessaire que l'intelligence s'ouvre vraiment sur le mystère de Dieu. On peut relire saint Augustin, tous les grands pasteurs de l'Église, ils déclinaient sans cesse la nécessité d'une sagesse pour pouvoir enseigner les autres, et c'est la moindre des choses. Une sagesse qui vient d'en haut, qui est reçue, que recèle l'Écriture, que l'Église garde comme un trésor dans sa tradition. C'est le sens de l'ouverture des yeux de l'aveugle. Et ce qui est très intéressant, c'est que le miracle lui-même dure très peu de temps, Mais tout le récit consiste en fait dans l'ouverture des yeux. Et qu'est-ce que voit l'homme? Et le Seigneur disparaît. Il ne reviendra qu'à la fin. Et il laisse l'homme en face des adversaires du Christ. Et cet homme qui au départ a été guéri par le Christ va réagir, va prendre position en sa faveur, il va devenir un disciple.
Et alors nous passons au troisième cycle, et là il n'y en a plus qu'un, c'est la résurrection de Lazare.
Voilà, ça c'est le sommet. La résurrection évoque symboliquement évidemment le passage, la transformation radicale, le passage à une vie nouvelle, à une vie déifique, comme diraient certains saints. Et c'est Béthanie, l'onction de Béthanie, c'est l'épisode qui suit le récit de la résurrection de Lazare, qui nous montre, dans lequel Saint Jean veut nous montrer le climat de paix, de joie qui règne dans un cœur et dans une communauté aussi, qui vit de cette contemplation, de cette transformation en Dieu. On devient cette fois-ci non plus seulement un disciple, mais un ami du Seigneur.
Alors Père Philippe Play, le chemin est parcouru. Et il est sans cesse à renouveler, puisqu'on tombe sur la route.
Normalement.
C'est ça l'accompagnement?
L'accompagnement, ça consiste, il faut connaître la route. Il faut avoir la carte quand on va loin. Donc on regarde la carte et c'est Saint Jean qui nous donne cette carte. Et ensuite, il faut voir, il faut discerner en fonction de chacun, à quel endroit on se trouve. Et puis prendre le temps, marcher à la même vitesse que les personnes sur cet itinéraire.
Merci, Père Philippe Play.